VOA Afrique, les infos à Washington.
Merci d'écouter VOA Afrique. Eric Manilakis avec vous pour développer les points de l'actualité. Il est 16h à Ouagadougou. Bienvenue dans ce journal. La une crise au Burkina Faso. C'est le sixième jour sans exclure des combats. Le chef des putschistes dans le pays des hommes intègres, le général Gilbert Diendéré, a déclaré aujourd'hui qu'il continuait à négocier avec l'armée loyaliste, mais qu'il s'en remettrait aux conclusions de la médiation régionale qui doit se réunir à Abuja pour mettre fin à la crise. En tenue militaire, le général Diendéré a accueilli une dizaine de journalistes dans une grande annexe du palais présidentiel Kossiam. Le général Diendéré, quant à lui, a paru calme et posé. Il n'a toutefois pas exclu que ses troupes se défendraient si elles étaient attaquées.
Depuis hier, nous avons entamé des discussions avec les militaires qui sont venus de l'intérieur du pays. Nous avons eu des échanges très fructueux et ces échanges vont continuer ce matin afin de trouver une solution à ce problème. Nous avons compris ce que voulaient ces militaires. Nous avons compris également que c'était un mouvement qui avait été organisé par un certain nombre de chefs de corps qui sont des promotionnaires d'école. Donc ce n'est pas un mouvement général au sein de l'ensemble de l'armée. Non, nous n'avons pas envie de nous battre. Bon, nous défendrons éventuellement, mais nous n'avons pas envie de verser du sang pour rester dans un pouvoir quelconque. Il ne sert à rien de verser du sang, il ne sert à rien de faire des massacres pour un pays que l'on veut servir. Nous voulons discuter surtout, nous voulons trouver avec eux un terrain d'entente de la manière la plus pacifique possible pour éviter de créer des problèmes encore à notre pays.
Le général Diendéré devant une dizaine de journalistes dans le palais de Kossiam à Ouagadougou. Le général Diendéré a également beaucoup insisté sur la médiation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Diendéré a souligné qu'il fallait autoriser les candidats pro-Compaoré à participer au scrutin présidentiel initialement prévu le 11 octobre, des candidats exclus par une décision de la Cour suprême. Et le projet de sortie de crise de la CEDEAO étudié mardi à un sommet extraordinaire prévoit notamment la restauration des autorités de transition au Burkina, mais aussi l'amnistie des putschistes et la réintégration des partisans du président déchu Blaise Compaoré dans la compétition électorale. Ce projet est vivement critiqué par la société civile et l'opposition. Ils l'ont même rejeté. Chérif Sy, le président du Parlement transitoire, a annoncé la dissolution du régime de la sécurité présidentielle. Et les États-Unis ont demandé hier lundi à leurs ressortissants de quitter le pays et ont annoncé le départ d'une partie des employés de l'ambassade américaine à Ouagadougou. Au Burkina toujours, malgré la reprise des programmes hier de la radio Omega FM dans la capitale Ouagadougou, les journalistes continuent à travailler dans un environnement hostile. Guezouma Sanogo, président de l'association des journalistes burkinabé, joint à Ouagadougou, a affirmé que la situation des journalistes et des médias n'a pas évolué.
Du point de vue de la profession des journalistes, rien n'a évolué. Puisque ce matin même, voilà, on nous fait part encore des menaces contre les journalistes. À Ouagadougou, tout comme en province, c'est-à-dire que la situation reste la même et les journalistes vivent et travaillent dans la peur ici.
Qui profère ces menaces?
Visiblement, c'est les RSP. Comme les RSP, ils se soutiennent. Sinon, ça ne saurait venir de nulle part si ce n'est pas des RSP qui se soutiennent.
Est-ce que vous parvenez à identifier justement ces éléments du RSP, c'est-à-dire les noms?
C'est difficile de le faire. Quand c'est très difficile de le faire. Mais de toute façon, quand dans leur précédent passage dans les médias, et certains journalistes avaient pu voir quelques visages. Mais la plupart du temps, ces menaces sont rapportées par en fait, des éléments du renseignement qui informent les journalistes du fait qu'ils sont menacés. Bon, nécessairement, ceux qui leur donnent ces informations connaissent ces éléments qui leur donnent les informations. Mais pour nous, c'est après les événements tels que nous allons tenter véritablement de chercher à savoir qui exactement proférait ces menaces. Et c'est un travail important qui doit être mené pour voir dans quelle mesure faire punir ces éléments. Je pense que c'est important de passer par là, par des sanctions véritables.
La radio Omega a repris ses programmes hier dans la capitale de Ouagadougou. Est-ce que l'on peut parler d'une évolution positive?
Une évolution positive, je ne sais pas trop. Mais de toute façon, il faut dire que les RSP laissent la contrôler la ville maintenant. Il y a d'autres forces qui contrôlent la ville et qui sont en mesure de protéger les journalistes. Au moins du point de vue sécuritaire, voilà, on ne voit plus les RSP dans les rues. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Mais comme je le disais tantôt, les journalistes, ils n'en demeurent pas, au moins que les journalistes sont toujours menacés. Et certains continuent à recevoir les menaces.
Kwezuma Sanogo joint à Ouagadougou tout à l'heure. Les juges de la Cour pénale internationale ont refusé mardi d'accorder une libération anticipée à l'ancien chef de milice congolais Thomas Lubanga, condamné à 14 ans de prison et confirmé en appel pour crime de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Lubanga avait été transféré au centre de détention de la CPI en mars 2006 et avait été condamné en 2012 pour l'enrôlement d'enfants soldats en Ituri, province orientale de RDC, riche en ressources comme l'or, lors de violences en 2002 et 2003. Les juges examineront à nouveau la possibilité de réduire la peine de prison de l'ancien chef de guerre dans 2 ans, a ajouté la Cour pénale internationale. Et dans l'extrême nord du Cameroun, deux femmes kamikazes se sont faites exploser à Gouzoudou, près de Kolofata. Elles n'ont pas atteint le marché qu'elles visaient, ont fait 2 blessés. Au Nigeria, la police a reçu un mandat d'amener le président du Sénat, Bukola Saraki, le 3e personnage de l'État, et sous le coup de 13 chefs d'accusation de corruption. Et en Tanzanie, l'hebdomadaire Mwana Halisi a interdit pendant 3 ans et de retour dans les kiosques un mois avant les élections générales en octobre. Et l'influente conférence des évêques catholiques du Burundi a appelé à la reprise d'un vrai dialogue, n'excluant aucun acteur de la crise dans laquelle a plongé le pays depuis fin avril, afin pour éviter un retour de la guerre civile. Dans une allusion claire au régime du président Pierre Nkurunziza, qui assure qu'il n'y a plus de crise au Burundi, pays à 60% catholique, le président de la conférence épiscopale burundaise a sévèrement critiqué ce qui entrave une solution négociée et nie que le pays connaisse une crise particulièrement grave.
VOA Afrique en direct de Washington.
Ailleurs dans le monde, venu de Cuba, le pape François atterrira cet après-midi aux États-Unis pour un voyage délicat entouré d'espoir d'une majorité d'Américains, mais aussi des réserves d'une minorité. Le premier pape latino de l'histoire posera le pied sur le sol des États-Unis pour la première fois de sa vie à 16h heure locale, 22h temps universel, à la base militaire Andrews, à près de Washington. Le président américain anglican Barack Obama, qui ne cache pas son admiration pour ce pape des pauvres, et sa femme Michelle l'accueilleront à sa sortie de l'avion. Le radicalisme social du pape François lui vaut aussi de très vives inimitiés chez les conservateurs et les milieux économiques libéraux de Wall Street, au Tea Party, jusque dans les rangs des républicains. Selon le père Thomas Rossica, un porte-parole du Vatican, ce voyage en provenance de Cuba est tout un symbole. On l'écoute.
Quand le Saint-Père atterrit ici à Washington, il va entrer dans ce pays depuis Cuba. Et je crois que c'est très, très important qu'il vienne de Cuba. Après presque 50 ans de difficultés, de moments très tristes, de divisions, le pape, c'est lui-même qui a beaucoup aidé à dégeler ce qui se passe maintenant entre Cuba et les États-Unis. C'est un nouveau moment, pour, non seulement pour les deux pays, mais pour le futur. Ces jours-ci que le pape est à Cuba, il demande une profonde réflexion au peuple pour que cette nouvelle liberté, peu à peu que ça arrive, soit vraiment une ouverture vers les autres.
Le père Thomas Rossica, un porte-parole du synode sur la famille, auquel le pape François va participer à Philadelphie, ici aux États-Unis. La Maison-Blanche devait recevoir aujourd'hui, à 3 jours de la visite d'État du président Xi Jinping, des ONG américaines qui dénoncent des projets de loi en préparation à Pékin qui limiteraient sensiblement leur champ d'action en Chine. Des recherches étaient en cours mardi pour retrouver 2 migrants déclarés disparus au large de l'île de grecque de Lesbos. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Le prochain dans 50 minutes. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.